Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Chindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Donc, voici d'abord les titres. Lomé, diplomatie en action pour la paix dans l'Est de la RDC, James Swan, Wang Xiang et Fort Nyasingwe font le point sur les initiatives de médiation sous l'égide de l'Union africaine. Ebola, diagnostic accéléré, premier survivant, l'OMS salue une riposte transformée par la montée en puissance des laboratoires avec des résultats disponibles à 24 heures et des chaînes de transmission mieux maîtrisées. Assassinat des experts de l'ONU, 54 condamnations à mort, la haute cour militaire tranche 9 ans après les faits, un verdict qui relance les débats sur la justice et la lutte contre l'impunité au Kasaï. Le verdict dans cette affaire a fait l'objet du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre les Congolais d'hier mardi. Avant d'aller plus loin, sachez que l'Assemblée nationale a adopté hier mardi soir la proposition de loi sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Initié par les députés Paul Gaspard Ngondankoy, le texte a été approuvé par 348 députés sur 351 votants en l'absence des élus de l'opposition qui ont boycotté les travaux, dénonçant ce qu'ils qualifient de coup d'État institutionnel. Cette loi encadre la convocation du référendum par le président de la République, son organisation par la CENI, ainsi que les règles de campagne, de dépouillement et de contentieux. Elle prévoit également la possibilité d'une assemblée constituante élargie en cas de projet de nouvelle constitution incluant sénateurs, députés provinciaux, gouverneurs et conseillers municipaux. Après son adoption par la Chambre basse, le texte est désormais transmis au Sénat pour une seconde lecture. En cas d'approbation dans les mêmes termes, il pourra être transmis au président de la République pour promulgation. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur la radio de la paix. Rencontre au sommet ce lundi à Lomé, le chef de la MONUSCO, James Swan, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, ainsi que le président du Conseil togolais et médiateur de l'Union africaine, Fort Nyasingwe, ont échangé sur les efforts diplomatiques en cours. Les détails avec Grace Hamzati.
Selon la présidence togolaise, les discussions ont porté sur l'état d'avancement des initiatives diplomatiques en cours ainsi que sur la contribution des Nations Unies aux efforts de médiation engagés sous l'égide de l'Union africaine pour parvenir à un règlement durable de la crise dans l'Est de la RDC. À cette occasion, les représentants de l'ONU ont salué l'engagement du Togo en faveur de la paix, de la stabilité et du règlement pacifique des conflits en Afrique. Ils ont également réaffirmé leur disponibilité à accompagner la médiation conduite par Fort Nyasingbe, afin de favoriser une solution équitable et durable à la crise. La présence de James Swan à Lomé revêt par ailleurs une importance particulière. Entré en fonction il y a près de 2 mois, le nouveau chef de la MONUSCO participe pour la première fois à la réunion semestrielle d'évaluation des initiatives de paix menées dans le cadre de cette médiation africaine. Cette rencontre intervient alors que la situation sécuritaire et humanitaire continue de se dégrader dans l'est de la RDC, malgré la signature de l'accord de Washington et la poursuite des initiatives diplomatiques destinées à mettre fin à la crise.
Restons dans ce chapitre. L'insécurité persistante dans l'est du pays et les violences de la milice Mobondo dans l'ouest continuent de peser lourdement sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du rapport annuel 2025 et du rapport sur l'état des droits de l'homme présenté lundi par la Commission nationale des droits de l'homme devant l'Assemblée nationale à Kinshasa. La CNDH dresse un tableau préoccupant et alerte sur les difficultés qui freinent son action sur le terrain. Les deux rapports ont été déclarés recevables par la plénière. Les points avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
Malgré un contexte sécuritaire marqué par l'occupation de certaines zones de l'Est par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda et par la recrudescence des violences de la milice Mobondo dans l'ouest du pays, la Commission nationale des droits de l'homme affirme avoir poursuivi ses missions de protection et de promotion des droits humains en 2025. Devant les députés nationaux, son président Paul Nsapu a indiqué que la CNDH a notamment mené des activités de sensibilisation, de formation, de monitoring des violations des droits humains, des traitements des plaintes et des visites des lieux de détention. L'institution reconnaît toutefois plusieurs obstacles majeurs à son action, parmi lesquels l'insuffisance des ressources financières et logistiques, la faible couverture territoriale ainsi que la nécessité de renforcer la collaboration avec les autres institutions de l'État. Après un débat houleux, les deux rapports ont été déclarés recevables par les députés, puis renvoyés à la commission mixte politique, administrative et juridique PAJ et droits de l'homme pour examen approfondi et formulation d'éventuelles recommandations.
Santé à présent, place à Ebola. Alors que l'épidémie continue de progresser dans l'est de la République démocratique du Congo, des équipes sanitaires commencent à enregistrer des avancées concrètes sur le terrain selon l'OMS. À la base, des diagnostics accélérés, une surveillance renforcée, des déplacements internationaux mieux encadrés et conséquence, l'apparition des premiers survivants. Lievin Mbuingavubu.
L'un des changements les plus importants depuis le début de l'épidémie se joue loin des centres de traitement dans les laboratoires. Selon la docteure Marie-Roseline Bélisère, responsable de la réponse aux urgences de la branche africaine de l'Organisation mondiale de la santé, la mise en place de nouvelles capacités de diagnostic a profondément transformé la riposte. Nous sommes passés d'une capacité d'environ 40 tests par jour à près de 800, explique-t-elle. Les résultats de laboratoire qui pouvaient auparavant prendre plusieurs jours sont désormais disponibles en 24 à 48 heures seulement. Si je déteste aujourd'hui une personne suspecte dans une communauté, le lendemain elle aura son test de laboratoire, a-t-elle indiqué selon une dépêche de l'ONU Info. Pendant les premières semaines de l'épidémie, certains prélèvements restaient en attente pendant plusieurs jours, laissant planer l'incertitude et compliquant le suivi des malades. Désormais, les autorités sanitaires peuvent confirmer ou exclure rapidement un cas et orienter immédiatement les patients vers des soins appropriés. Pour l'OMS, cette accélération constitue l'un des principaux acquis de la riposte à ce stade et un outil essentiel pour interrompre plus rapidement les chances de transmission.
Puisque nous parlons des performances réalisées par les équipes sur le terrain, notez qu'un homme est désormais guéri de la maladie à virus Ebola à Butembo, dans le Nord Kivu. Il a quitté lundi les centres de traitement d'Ebola de Ngote après avoir contracté la maladie lors d'un séjour à Bunia dans la province de l'Ituri. À l'issue de sa prise en charge, un brevet de décharge lui a été remis pour regagner la communauté assorti des recommandations. Poursuite du suivi médical post-guérison, conformément aux directives nationales, respect des mesures de prévention et de santé publique ainsi que participation à la sensibilisation communautaire sur la maladie à virus Ebola. Une nouvelle prouesse dans la zone de santé de Katwa au Nord Kivu. Un deuxième malade a été déclaré guéri de la maladie à virus Ebola et a quitté le centre de traitement lundi soir. L'annonce a été faite par Marie-Noël Kabuya, directrice de la cellule de communication du Nord Kivu, lors d'une séance de sensibilisation organisée à Beni avec les leaders communautaires et les acteurs de développement. Elle en a profité pour rappeler l'importance du respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie. Elle est au micro de Marc Marofimbo.
C'est la deuxième personne guérie au Nord Kivu, après la personne qui a contracté la maladie en ville de Goma, ce qui donne de l'espoir. Les mesures barrières sont le plus grand moyen qui peut nous aider à éradiquer cette maladie. C'est une maladie des mains sales et si nous sommes propres, ça va nous aider à vraiment couper la chaîne de la contamination de cette maladie. Voilà pourquoi partout où nous passons aujourd'hui, il y a les seaux d'eau et du savon. C'est le plus grand médicament. Si vous arrivez quelque part aux barrières, dans des bureaux, dans des hôtels, dans des assemblées, respectez juste les mesures qui ont été édictées par l'autorité provinciale au travers son arrêté qui a été signé il y a de cela 2 semaines pour nous aider à rompre la chaîne de la contamination. Pour l'instant, la souche Bundibugyo qui est en vogue n'a pas de vaccin, certes, mais les médecins se battent contre tous les symptômes de manière à ce que l'on puisse sauver des vies.
Pour sa part, le Comité international de la Croix-Rouge mettent aussi la main à la Patanitourie. Lundi, le CICR a remis au service de la protection civile un lot de matériel destiné à la gestion des dépouilles mortelles. Objectif, renforcer la capacité d'intervention des agents sur le terrain, surtout en cette période de crise sanitaire que traverse la province, explique l'organisation humanitaire. Un appui qui vient répondre aux besoins urgents de communautés confrontées à des situations exceptionnelles. Martial Kizabiamongo.
Ce lot de matériel est composé de pelles, des protège-genoux et des coudes, des bêches et des pioches. Il y a aussi des sacs mortuaires, des salpettes, bâches, seaux métalliques et autres outils utilisés lors des inhumations. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR, très impliqué dans la riposte contre l'épidémie à virus d'Ebola, estime que cette assistance va renforcer la capacité opérationnelle de ces services dans la prise en charge des situations d'urgence. Les cas, par exemple, des enterrements des personnes mortes d'Ebola qui nécessitent une gestion digne et sécurisée des cadavres. Le directeur provincial de la protection civile à l'Ituri, Robert Djalonga, indique que ces outils viennent répondre à un besoin longtemps exprimé par son service. Il y a quelques mois, des agents de ces services ont suivi une formation spécialisée dans le domaine de la gestion des dépouilles organisée par le CICR. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Et puis, ce que nous allons évoquer n'a rien à voir avec Ebola. Attention aux amateurs d'aphrodisiaques traditionnels à Matadi. Un constat, l'usage de ces racines gagne du terrain auprès des jeunes. Ces produits, présentés comme des solutions naturelles pour améliorer les performances sexuelles, se vendent dans les marchés, dans les rues et même en ligne. Mais leur composition reste inconnue et leurs effets sur la santé préoccupent les médecins que Élise Kavira a rencontrés depuis la ville portuaire du Congo central. Suivez son reportage.
Certains jeunes expliquent y recourir pour compenser la fatigue liée au travail. Fiston Bayekula, motard, témoigne de ces longues journées de plus de 10 heures.
Nous les motards, par exemple, ce travail nous cause des problèmes du dos, donc sans ces renforts, on est foutus.
Les tradis praticiens, eux, défendent ces remèdes à base des plantes. James Mutanda, connu sous le nom de docteur, insiste sur leur rôle dans l'endurance masculine.
La force d'un homme réside dans son dos. Si tu as des hémorroïdes, tu ne pourras plus être performant.
Mais pour le docteur Georges Baka de l'hôpital de Kinkanda, ces produits vendent une illusion.
Jusque-là, il n'y a pas de preuves médicales sur l'existence de médicaments pour allonger ou grossir les pénis. Alors ce sont des pratiques qui exposent à beaucoup de conséquences.
Il appelle à un contrôle plus strict, estimant que la vente libre de ces produits constitue un risque pour la santé publique. Matadi. Élise Kavira, Radio Kapi.
Politique à présent avec cette demande du parti Alliance Nationale des Fédéralistes Kyungistes à Lubumbashi. L'ANAFEC estime qu'il est impératif pour la CENI d'organiser l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur dans la province du Haut-Katanga après la démission de Jacques Kiabula. Propos tenu hier mardi par le président national de ce parti, Lolo Kyungu, qui souligne que la province ne peut pas être dirigée trop longtemps par un gouverneur intérimaire, limité dans ses actions, une situation aux conséquences néfastes pour la province. Ces propos ont été recueillis par Paul Monanga.
Nous venons d'avoir la démission du gouverneur Jacques Kiabula. Déjà, son absence était très longue, pendant 10 mois, qu'il y a eu l'intérim de son vice-gouverneur, et ça a pris beaucoup de temps, mais à la fin, c'est au cours de son invitation à Kinshasa qui l'en est déposé sa démission. Donc ça veut dire déjà nous venons de consommer 10 mois d'intérim. Il faut légitimer nos institutions. Nous avons une assemblée provinciale qui est déjà bien stable, mais le pouvoir exécutif, le gouvernement, doit avoir des animateurs qui peuvent bien répondre à leurs responsabilités. Parce que vous savez, quand vous êtes sous une période d'intérim, même l'assemblée provinciale n'a pas beaucoup plus de droits de contrôle sur le gouvernement parce que c'est à l'intérim et parce que la personne qui est là n'est pas redevable au budget ni à l'apport budgétaire de leur gouvernement. Et la personne qui est là, sachant qu'il est intérimaire, ne fournira aucun effort parce qu'il sait que demain ou après-demain, ça va changer.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, les frappes entre Israël et l'Iran ont cessé lundi 8 juin après 2 jours d'affrontements directs entre les deux pays. Téhéran a toutefois menacé des représailles en cas de nouveaux bombardements israéliens sur le Liban. Dans ce contexte, une rumeur mensongère affirme que l'Iran aurait abattu par erreur un avion civil transportant des pèlerins de retour de la Mecque. Plusieurs pays occidentaux ont annoncé mardi 9 juin de nouvelles sanctions contre des entités et individus israéliens impliqués dans les violences et l'expansion illégale des colonies en Cisjordanie occupée. La France a interdit l'entrée sur son territoire au ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, qui promeut l'annexion de la Cisjordanie. Sur le terrain, les colons agissent en toute impunité. Dans la vallée du Jourdain, des Palestiniens ont ainsi été forcés de quitter leur village d'Al-Aouja.
L'invité.
La haute cour militaire a condamné vendredi 5 juin à Kinshasa 54 personnes à la peine de mort dans l'affaire de l'assassinat des experts des Nations Unies Michael Sharpe et Zaïda Catalan près de 9 ans après le fait. Le condamné était poursuivi notamment pour crime de guerre par meurtre dans ses dossiers liés au double homicide de deux enquêteurs onisiens tués en mars 2017 dans la province du Kasaï. Le verdict dans cette affaire a fait l'objet du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais hier mardi. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Dominique Kambala, vous êtes avocat, vous êtes membre de la société civile du Kasaï central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Vous êtes également rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Vous êtes également directeur général de l'ONGD dénommée Société congolaise pour l'état des droits SED en sigle. Que pensez-vous de ces verdicts prononcés dans cette affaire?
Alors, la lecture qui peut être faite de ce verdict, elle est mitigée. Mitigée, dans un premier temps, nous accueillons ces verdicts avec satisfaction, dans la mesure où ce procès s'inscrit dans le cadre de besoins exprimés par les populations de la province du Kasaï central lors des consultations populaires sur les besoins de la justice en 2020. Aussi, ce procès rencontre le deuxième pilier de la justice transitionnelle, à savoir la justice. Et que donc, nous pouvons nous dire qu'un pas a été réalisé, un pas a été franchi sur le chemin de la lutte contre l'impunité. Ça, c'est du côté, on dirait, positif, mais le sentiment mitigé aussi en termes d'interrogation. Interrogation dans la mesure où, comme on vient de le dire dans le reportage par André, c'est que, au cours des enquêtes qui ont été menées, des investigations dans tout ce qui s'est passé dans le Kasaï, il y a eu des commanditaires au plus haut niveau qui étaient cités. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des menus fretins qui sont pratiquement poursuivis et sanctionnés.
Oui, vous auriez souhaité que les commanditaires soient non seulement poursuivis, mais aussi condamnés. Mais quand on apprend dans quelles conditions ces forfaits avaient été commis, pensez-vous qu'il était facile d'identifier les véritables commanditaires de ces doubles assassinats?
Mais oui, parce que nous avons suivi l'ensemble des cas emblématiques et prioritaires qui ont été sélectionnés par la cellule d'appui aux poursuites de la MONUSCO. Et dans certains dossiers, nous avons cité même devant les juridictions militaires, devant le littoral militaire supérieur, certaines personnes, certaines plaintes ont été déposées. Mais comment on se contente de menus fretins, je m'excuse de l'expression, alors qu'il y a des commanditaires au plus haut niveau, sur le plan civil et militaire, qui n'ont jamais été poursuivis?
Merci Jonas Tchoumbela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Avec les reculs du temps, Jonas Tchoumbela, peut-on aujourd'hui répondre à la question de savoir à qui auraient profité les doubles assassinats des experts des Nations Unies?
Mais c'est ça le problème de l'enquête. Le régime en place doit répondre. Ceux qui ont reçu ou qui avaient reçu la mission de protéger les personnes et leurs biens et de sécuriser les frontières de la République, y compris l'endroit où les crimes là se sont commis. Donc la responsabilité de l'État congolais reste engagée dans cette affaire, parce que c'est eux qui sont en place. Mais comment on est arrivé? Parce qu'il y a des grands messieurs du régime dont le nom ont été cités. Est-ce que ça est que ça profite pour supprimer la vie des experts? Donc tout ça, les enquêtes devaient nous éclairer et que la justice se saisisse pour que nous sachions ces crimes-là ont profité à qui.
Merci. Rifin Louko Moussoubao, vous êtes chercheur en droit de l'Université de Kinshasa et auteur de plusieurs ouvrages. À votre avis, vous, en tant que juriste, hein, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que, en dépit du fait que certains noms sont cités, ces personnes n'ont jamais été non seulement invitées, mais aussi poursuivies? Est-ce que c'est lié au fait que les conditions dans lesquelles les assassinats ont été commis, les conditions étaient floues, ou alors il y a des impératifs politiques qui peuvent expliquer ça?
Bon, d'abord, les conditions étaient trop floues. Et puis, pour vous rappeler, les images étaient intenables. On appelle ça des images difficiles. Mais les raisons sont politiques, essentiellement. Ça veut dire quoi en ce qui concerne maintenant Kamuina Nsapu? L'effet Kamuina, c'est un phénomène qui a porté la disparition d'un nombre important de nos compatriotes. Ces faits-là sont essentiellement d'abord politiques. Il y a donc une responsabilité politique. Et les politiciens de l'époque n'ont pas voulu assumer la gravité, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont posé au Kassai, notamment dans le territoire des chefs qui portent les noms de ces phénomènes. Et donc, pourquoi n'avons-nous pas vu les responsables majeurs être jugés? C'est la question que vous me posez. C'était des questions politiques.
Vous pouvez continuer à suivre Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.